autour de la question.
D'où ça vient?
Qu'est-ce que ça va changer?
C'est pour qui?
À quoi ça sert?
Caroline Lachowski.
Bonjour, ravi de vous retrouver, chers amis auditeurs, avec Hugo Violas à la réalisation pour nous retourner la tête aujourd'hui en remettant en question tout ce que nous pensions savoir sur la vie, la mort, le sexe et l'évolution. Carrément renversante et même stupéfiante, comme nous allons le découvrir avec notre invité, le génial trublion des sciences biologiques, Léo Grasset, créateur de la chaîne Dirty Biology et auteur d'un nouvel opus, Le Grand Bordel de l'évolution. Ouvrage dont nous avons un exemplaire à vous offrir, chers amis auditeurs. Histoire de vous faire découvrir dans le désordre à quoi sert le sexe et pourquoi le canard en a un en forme de tire-bouchon, comment on voit les couleurs et pourquoi tout ce qui vit meurt, ou encore comment le cérumen dans nos oreilles raconte nos multiples sorties d'Afrique, sans oublier le rôle des grands-mères dans l'évolution humaine. Si vous avez déjà la tête qui tourne, c'est bon signe. Autour de la question pourquoi l'évolution est renversante, bienvenue pour commencer par nous interroger avec Audrey Dufutour, la spécialiste mondiale des blobs, ces étranges organismes unicellulaires que Thomas Pesquet essaye d'élever dans la station spatiale, pour nous interroger donc non pas sur le sexe des anges, mais bien sur le sexe des blobs. C'est parti.
Le blob, il a 1 milliard d'années et il présente 720 types sexuels et de nombreux unicellulaires présentent de nombreux types sexuels. Je voulais savoir pourquoi dans l'évolution, chez les animaux et les plantes, on a convergé vers juste 2 sexes.
Excellente question que vous abordez évidemment dans Le Grand Bordel de l'évolution, votre nouvel ouvrage aux éditions Flammarion, toujours aussi porté sur la chose. Mon cher Léo Grasset, bonjour.
Bonjour.
On ne se refait pas, nous non plus, hein, d'ailleurs. Il sera donc beaucoup question de sexe, mais pas que, Léo Grasset, puisque le formidable passeur de science que vous êtes sur votre chaîne Dirty Biology, 1 220 000 abonnés, rien que ça, nous retourne la tête avec toutes les questions biologiques possibles et imaginables sur la vie, sur la mort, sur le sexe et l'évolution du vivant en général et des humains en particulier. Alors vous qui êtes à l'écoute, chers amis auditeurs, oubliez tout ce que vous croyez savoir sur l'évolution, car dans ce grand bordel, c'est vous qui le dites, hein, Léo Grasset, en titre de votre dernier ouvrage, après d'ailleurs le coup de la girafe et la grande aventure du sexe, vous avez donc décidé de nous stupéfier à tous les sens du terme, de nous retourner le cerveau. Alors en anglais, il y a un mot pour ça, avec vos mindfuck préférés. Alors je ne sais pas comment traduire mindfuck. Mind, c'est le cerveau. Fuck, on va dire quoi? Renversant? Bouleversant?
Ouais, ouais, c'est la traduction polie, ouais.
La traduction polie, c'est ouais. Ça. En fait, c'est tout ce qui vous interpelle de plus curieux, de plus ébouriffant ouais. Dans toutes les nouvelles de sciences biologiques que vous étudiez.
C'est ça. Pour moi, c'est vraiment... Ce moment un peu d'épiphanie où, dans un film, on fait « Ah !» Cette espèce de eureka où tout se renverse et on réinterprète tout ce qu'on croyait savoir à une autre lumière. Et pour moi, c'est dommage qu'on n'ait pas ce mot en français. Je n'ai pas réussi à trouver une traduction, en tout cas. Mais c'est des moments que j'adore en science, quand on comprend quelque chose et que tout prend sens d'un coup. Ouais.
Alors, par exemple, pour répondre à la question d'Audrey Dufutour, pourquoi seulement 2 sexes dans l'évolution, et encore, on oublie les hermaphrodites, mais enfin, pourquoi seulement 2 sexes au lieu de plusieurs centaines, comme c'était le cas au départ avec les unicellulaires? Comment on va faire un eureka? Ah bon, d'accord, j'ai compris. D'abord, c'est une drôle de question, de toute façon.
Oui, c'est une drôle de question, parce que c'est vrai que nous, on prend pour acquis le fait que, voilà, il y a 2 sexes, il y a les mâles, les femelles. Bon, alors, faut d'abord définir très très rapidement, mais en fait, le sexe, pour un biologiste de l'évolution, c'est pas forcément en fonction de ses organes sexuels qu'il porte, ou voilà, du genre auquel il s'identifie, pas du tout. C'est le type de gamètes qu'il va produire. Donc, soit il produit des spermatozoïdes, c'est un mâle, soit il produit des ovules, c'est une femelle. Et ça, c'est vraiment la définition de base. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'un ovule, c'est juste un gamète gros et un spermatozoïde, c'est un gamète petit. Et qu'au départ, il y a, on va dire, 1 milliard d'années, par exemple, comme elle en parle, Audrey Dufutour, ces gamètes étaient peut-être de la même taille. Et il y a un moment, un des deux a décidé qu'il allait devenir plus petit. Pourquoi? Parce qu'un individu qui peut faire plusieurs petits gamètes, eh bien, il va forcément, avec la même quantité de ressources, faire plus de gamètes qu'un individu qui va faire un seul gros gamète. Donc c'est comme, voilà, si dans le livre, je prends l'exemple d'un gâteau, vous avez la même quantité d'ingrédients, soit vous pouvez faire plein de petits cookies, soit vous pouvez faire un gros gâteau.
Donc les femmes, elles font un gros gâteau et les hommes font des petits cookies.
Et en fait, il faut se dire que la stratégie plein de petits cookies, chaque fois qu'on fait un cookie et qu'on le donne, quelque part, on récupère un bonus évolutif, c'est de faire un enfant. Alors qu'ils ont fait un gros gâteau, on a un seul bonus évolutif. Si on en fait 3 millions, comme les hommes ils peuvent faire, eh ben, on peut avoir 3 millions d'enfants. C'est vachement plus intéressant, mais c'est de la triche. Parce que du coup, on fait des gamètes qui portent aucune ressource. Donc finalement, on va faire un bébé qui aura très peu de ressources à la naissance. Il va partir avec peu de matière pour grandir. Donc du coup, ça veut dire que l'individu en face qui fournit le gamète, il est obligé de compenser pour cette triche. Lui, il est obligé de fournir plus de ressources parce que l'autre, il en donne moins. Donc en fait, on arrive à une sorte d'évolution où il y a un des deux gamètes qui va devenir de plus en plus petit au fur et à mesure des temps géologiques et l'autre des gamètes qui va devenir de plus en plus gros pour compenser. Et on a vraiment deux stratégies comme ça qui sont stables. Et c'est très dur d'avoir un intermédiaire, c'est-à-dire très dur d'avoir un gamète au milieu qui est un peu des deux, qui est un peu neutre, parce qu'en fait, il ne sera pas performant dans aucune des deux situations. C'est-à-dire, s'il est face à un petit gamète, eh ben, il n'arrivera pas à donner assez de ressources pour compenser, et s'il est face à un gros gamète, ben, il n'arrivera pas à faire assez d'enfants pour être compétitif par rapport au spermatozoïde.
Donc bref, voilà pourquoi deux extrêmes qui sont l'évolution stables. A choisi deux sexes, et voilà. En fait, deux extrêmes qui sont stables. Mais pourquoi avoir choisi le sexe? Parce qu'on peut aussi se reproduire sans sexe, ça existe.
Ah oui, tout à fait. Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que dans les organismes où, justement, il y a beaucoup plus de sexualités différentes, entre guillemets, ils sont asexués et sexués, c'est aussi chez ce type d'organisme-là qu'on observe, par exemple, on peut avoir 25 000 types sexuels, et de temps en temps, ils font un peu d'asexualité. Enfin, il faut se dire que, en fait, la sexualité dans le monde vivant est beaucoup plus versatile, elle est beaucoup plus labile, ça bouge beaucoup, on fait un peu des deux en fonction des situations, que chez nous, où nous, on est fixés, quoi, on fait du sexe, point barre.
On fait du sexe, point barre, alors que l'évolution est beaucoup plus diverse et variée que ça. On se rend compte aussi dans cet ouvrage, dont je vous rappelle, chers amis auditeurs, on a un exemplaire à vous offrir, le grand bordel de l'évolution avec les illustrations assez tordantes, elles aussi, mais toujours très justes, signé Alice Mazel. Parce que c'est ça votre marque de fabrique, c'est que c'est du hyper sérieux sur la biologie, mais de manière extrêmement drôle, voilà.
Oui, c'est vraiment le projet, en fait, c'est de faire comprendre aux gens que c'est pas parce que c'est des questions qui sont sérieuses et qui font réfléchir, etc., que ça doit être ennuyeux. Et en fait, pour moi, la science, la biologie, tout ça, ça peut et même doit faire partie de la pop culture.
C'est-à-dire qu'on doit... De la pop culture, ouais, tout carrément.
Je pense qu'on doit pouvoir avoir des discussions au bar avec ses potes sur, typiquement, pourquoi est-ce qu'on a deux sexes, pourquoi est-ce que... Tout comme on discutera du dernier film ou d'un album, parce que c'est des questions qui sont tout aussi intéressantes les unes que les autres. Et ça ne doit pas être considéré comme ennuyeux ou sérieux.
Alors, ce n'est pas ennuyeux, surtout quand on parle de sexe. Arrêt sur l'image, justement, de l'extraordinaire diversité. Alors, cette fois-ci, à la fois des pratiques et des organes sexuels, tous les goûts et surtout tous les sexes, franchement, sont dans la nature. Il y en a même qui chantent, comme celui du batelier d'eau pour séduire sa partenaire. C'est Emmanuelle Pouy-Débat, autre chercheuse très pop au Muséum National d'Histoire Naturelle, spécialiste du comportement animal et autrice d'un livre renversant lui aussi Sexus Animalis qui nous le faisait découvrir ici même dans ce studio. On écoute Emmanuelle Pouy-Débat.
Un batelier d'eau, c'est un petit insecte, c'est la famille des punaises. Donc ça fait, bon, de prime abord, ça ne fait pas forcément rêver. Hein. Quand on sait d'ailleurs chez les punaises, il y a énormément de cas de copulation qui sont absolument horribles
pour la dramatique. Femelle. Ah oui, clairement.
Mais en tout cas, chez le batelier d'eau, ce qui est incroyable, c'est que donc, le mâle, il a effectivement un pénis chantant. C'est-à-dire qu'il va frotter, alors on ne dit pas pénis, on dit EDH, mais peu importe. Hein. Il va le frotter contre son abdomen et il va produire jusqu'à 99 décibels. Alors pour vous donner un ordre d'idée, c'est presque le barrissement d'un éléphant. C'est colossal par rapport à la taille de l'espèce.
Insecte, ah oui.
Et le but, c'est d'attirer la femelle. Donc voilà, monsieur chante. Alors, avec son pénis, certes, mais monsieur chante. Donc ça, c'est assez unique dans le monde animal et je trouve ça super rigolo.
Une réaction, mon cher Léo. Est-ce que ça vous fait rêver, le pénis chantant du batelier d'eau?
Oui. Enfin, franchement, en tant que biologiste, c'est dur de ne pas être émerveillé, en fait, devant la diversité des organes génitaux. On a toujours le réflexe de dire « Ah, bah oui, c'est un organe génital, c'est un peu grossier. » Mais non, en fait, si on regarde réellement, en termes d'organes purs, si on prend le point de vue d'un extraterrestre, c'est-à-dire qu'on se débarrasse de tous nos trucs liés à la sexualité, on se dit « Mais c'est fascinant la diversité qu'il y a là-dedans, là-dessous. » Et en fait, c'est lié à des raisons tout à fait logiques, hein, si on comprend un peu les règles évolutives. C'est-à-dire qu'il y a moins de contraintes, tout bêtement. On peut avoir des organes génitaux de forme un peu plus variée, mm-hmm. sans que ça affecte nécessairement notre survie ou notre reproduction. Tant, mm-hmm. tant que ça réussit à transmettre des gamètes, c'est bon.
C'est bon, oui.
Et du coup, bah, ça veut dire que l'évolution, elle a plus de matière sur laquelle travailler, il y a plus de diversité sur laquelle faire de la sélection. Et donc, bah, voilà, ce qui se passe, c'est qu'on a des pénis qui sont chantants, mais il y a des trucs incroyables. Il y a des sphingidés, c'est des papillons de nuit qui utilisent leur pénis et ils le frottent très fort, pareil, contre leur abdomen pour faire une sorte de brouillage contre le sonar des chauves-souris. Donc en fait, l'idée, c'est de produire un son tellement fort que les chauves-souris ne vont pas réussir à les repérer, quoi. Donc,
on ça peut être un organe de défense, un organe sexuel de défense,
ouais,
finalement.
Et
vous parlez aussi beaucoup, alors que ce soit dans vos vidéos ou dans cet ouvrage-là, vous avez parlé aussi d'orgasme féminin et de sexualité dont on ne parlait pas beaucoup. Autant le pénis a été étudié par les biologistes, autant le clitoris, un peu moins,
on va dire. Tout à fait. Ouais. Ouais, ça, c'est vraiment une très belle lucarne, en fait, dans le monde de la science, hein, dans l'histoire des sciences. Et c'est une histoire qui est encore en train de s'écrire. C'est toute la recherche à la fois de l'anatomie féminine et puis de en fait, comment ça fonctionne. On se rend compte que tout ce qui est juste le câblage nerveux, les cascades hormonales qui se passent lors d'un orgasme féminin, tout ça, c'est encore très mal connu. Et en plus, même, encore une fois, du point de vue d'un biologiste évolutif, pourquoi l'orgasme féminin existe, c'est-à-dire on sait que ce n'est pas du tout lié à la reproduction, ça ne sert pas de fonction, entre guillemets, au sens mm-hmm. biologique du terme. Pourquoi est-ce que c'est encore là ? C'est une question qui est encore un peu en suspens. Donc voilà, j'en parle dans le truc et j'essaye d'expliquer les différentes hypothèses, la démarche actuelle des chercheurs et des chercheuses qui s'intéressent à ça. C'est super intéressant et c'est tout récent. Enfin, un des derniers papiers que je cite, il a été écrit il y a 2 ans et il a un peu renversé la vision des choses. Donc c'est encore en cours, quoi.
On en est au niveau des hypothèses, mais toutes les hypothèses sont à creuser, en fait, c'est ça.
Voilà, il y a beaucoup d'hypothèses à creuser. Alors ce qui est chouette, c'est que les biologistes n'hésitent pas à émettre des hypothèses dans tous les sens, il y en a beaucoup.
Et bourrifante et farfelue, souvent. Hein, ouais.
Mais là, ce qui est chouette, c'est qu'aujourd'hui, on ne fait pas que émettre des hypothèses, c'est qu'on les teste et on utilise aussi une approche qui est un peu différente de celle qu'on avait avant. Par exemple, aujourd'hui, ce qu'ils essayent, c'est retrouver, par exemple, le point d'origine de l'orgasme féminin. Quand est-ce que ce réflexe a émergé, ce réflexe hormonal, nerveux, dans l'évolution. Et donc, ils ont réussi à mettre à peu près un point de départ en disant, voilà, c'était... l'ancêtre commun des amniotes qui avait ça.
Donc l'ancêtre commun des amniotes, premier orgasme féminin, les amniotes.
Voilà, donc l'idée c'est de dire, ok, en fait l'orgasme féminin est partagé par tous les mammifères, les reptiles, les oiseaux, ils avaient ça, au moins ça on en est sûr. Donc ça veut dire que peut-être si vous voyez un oiseau, une oiseau femelle, voilà, peut-être qu'elle ressent du plaisir elle aussi. Enfin voilà, c'est pas impossible.
L'intérêt du plaisir pour l'évolution peut-être.
Exactement,
aussi, hein.
Donc, ça pose toute une question. C'est des champs en fait qui étaient très peu abordés. Enfin, on se pose pas trop la question du plaisir d'un animal, quoi. Donc c'est très intéressant.
Ça ouvre et ça renverse, hein, autour de la question pourquoi l'évolution est renversante. On a parlé de sexe, on va parler de la vie tout le temps, du vivant. On va aussi parler de la mort. Parce que pour ce qui est de bouleverser nos idées reçues, de nous secouer aussi, vous posez la question carrément, pourquoi on meurt ? Mm-hmm. Tiens donc, le biologiste que vous êtes, le vidéaste, l'auteur que vous êtes, Léo Grasset, pourquoi on meurt ?
Voilà, alors ça, c'est une question assez dure à répondre. D'ailleurs, je me demande si ce n'est pas un des chapitres les plus compliqués du livre. En fait, le truc, c'est... Il faut peut-être renverser la question et se demander pourquoi est-ce que l'évolution aurait... eu un intérêt, enfin encore là j'utilise des mots qu'il ne faut pas utiliser, hein. L'évolution n'a pas d'intérêt, c'est pas une personne, voilà. C'est un accident permanent, mais quel intérêt y aurait, voilà, mais quel intérêt y aurait à sélectionner un individu qui serait immortel, entre guillemets. Et en fait on se rend compte, les chercheurs se sont rendus compte là toute la dernière moitié du XXe siècle, qu'il n'y a aucun intérêt, entre guillemets, à sélectionner un individu pour qu'il survive 400 ans, etc., s'il est dans un environnement où, par accident, il peut se prendre un pot de fleurs, il peut y avoir un arbre qui tombe sur sa tête, il peut se faire manger, machin, avant cet âge-là, en fait. Et l'idée, c'est de dire qu'il y a une sorte de mortalité extrinsèque, une mortalité accidentelle, mm-hmm. qui va complètement tirer à l'évolution de la sénescence, donc l'évolution du vieillissement. Voilà. Mais c'est assez compliqué, j'avoue, l'argument est un peu renversant.
C'est renversant parce qu'en fait, c'est parce qu'on risque à tout instant de mourir, en gros, que ça ne sert à rien de parier sur une vie éternelle ou très longue.
Tout à fait.
Ça,
l'évolution ne fait pas émerger des gènes qui vont nous faire perdurer dans le temps. c'est plus intéressant de se reproduire le plus vite possible avant que l'accident nous tombe sur la tête. voilà, parce que et du coup, en fait, il y a aucun, même si l'évolution pourrait sans doute faire émerger des solutions qui nous permettraient de vivre pendant 1000 ans, il n'y a aucun problème chimique fondamental. Mais c'est plus que, en fait, on sera mort par accident d'ici 50 ans. Donc, pourquoi faire ? Enfin, il n'y a aucun intérêt à faire perdurer le sac de gènes qu'on est actuellement. Quoi.
Le sac de gènes, on va y revenir, parce que vous avez des formules géniales. Sur la mort, on peut aussi parler de ce qu'est la mort programmée des cellules. Enfin, d'un tas de découvertes qui font que la mort fait partie de la vie et qu'on se rend compte que, oui, dans ce grand bordel de l'évolution, tout ça est lié. Il y a beaucoup de hasard, il y a beaucoup d'accidents. Mais que malgré tout, quoi, le fait de comprendre à quel point c'est... précieux, merveilleux, incroyable, renversant, dégoûtant parfois, c'est intéressant.
Ouais, mais c'est vraiment ça que j'aime avec la biologie. Je trouve que c'est une science qui en fait, c'est très facile pour la biologie de nous émerveiller ou de nous repousser. Je trouve pas le mot, mais c'est quelque chose d'un peu épidermique, quoi. On est saisi, exactement, parce que c'est du concret, quoi. C'est nous, c'est notre situation, notre place dans l'univers, etc. On se rend compte qu'on est, voilà, on est du point de vue d'un biologiste évolutif, en tout cas de la plupart des biologistes évolutifs de la seconde moitié du XXe siècle, donc Dawkins et tout ça, on peut être assimilé à un véhicule pour des gènes. Et en fait, si l'unité précieuse, l'unité qui fait l'évolution, c'est les gènes qu'on transporte et qu'on transmet comme ça dans une course de relais de génération en génération. Mais nous, on est juste un sac transitoire, quoi. On vient au monde, on se désagrège petit à petit, hop, on balance nos gènes et c'est fini pour nous. L'histoire est terminée une fois qu'on s'est reproduit. On ne fait plus partie du tableau, quoi. C'est les gènes qui vont perdurer pendant des centaines de milliers d'années, des millions d'années, etc.
Et en fait, c'est beau et c'est précieux. Ça. Voilà, c'est-à-dire que c'est à la fois, exactement, ça nous rend humbles et modestes. On est vraiment rien du tout. Et en même temps, on est ce miracle-là, exactement, à un moment, pendant une durée de temps.
Exactement. On est ce maillon essentiel d'une chaîne qui n'a pas été interrompue depuis les débuts de la vie. C'est-à-dire que c'est un truc incroyable. C'est de se dire, tous mes ancêtres ont eu du sexe. Ils ont tous réussi à survivre et se reproduire jusqu'à Lucas, quoi, jusqu'à mon ancêtre, l'ancêtre commun de tous les êtres vivants il y a 4 milliards d'années. Donc c'est incroyable de dire, waouh, ils ont tous géré ça. Bon, j'ai plus qu'à faire pareil.
C'est ça, hein, ça. Vive la vie, vive le bordel de l'évolution. Autour de la question pourquoi l'évolution est renversante, on continue donc de se laisser tournebouler pour reprendre le titre de votre ouvrage dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous offrir, donc le grand bordel de l'évolution. Et comme on est loin d'être au bout de nos surprises, on reprend notre souffle à l'écoute de votre choix musical, un peu à l'ouest. C'est le musicien, DJ, compositeur norvégien Todd Terji que vous nous glissez entre les deux oreilles sur RFI. Ça groove bien sur RFI avec le musicien, compositeur, DJ norvégien Todd Terji. Pourquoi ce choix musical, ce joli choix musical, Léo Grasset?
En fait, ce morceau me fait un peu penser à... J'ai l'impression que c'est plusieurs cellules qui discutent entre elles.
Et y a un côté, ouais. Petite bactérie.
Ouais, on voit une espèce de bouillon de cellules qui papotent. Et je sais pas, ça a vraiment ce côté un peu en ébullition de la biologie. Donc j'avais envie d'essayer de représenter en musique.
C'est voilà. Ça, ouais, des cellules qui papotent et qui pétillent autour de la question de l'évolution. Pourquoi l'évolution est aussi renversante? On continue de s'interroger avec vous, Léo Grasset, génial vulgarisateur de science sur votre chaîne d'ortibiologie. Et vous venez de publier Après le coup de la girafe et la grande aventure du sexe, tiens donc, ça c'est avec votre frère Cola, Le grand bordel de l'évolution chez Flammarion. Ouvrage tordant, stupéfiant et instructif dont nous avons un exemplaire à vous offrir. Chers amis auditeurs, histoire de vous retourner un peu le cerveau et de nous ouvrir à l'étrangeté de la vie, comme nous le rappelait ici même l'éminent professeur de psychologie cognitive, le neuroscientifique Stanislas Dehaene, professeur au Collège de France, qui était récemment notre invité.
C'est François Jacob qui parlait de bricolage de l'évolution. Et c'est un terme que j'aime beaucoup. C'est peut-être plus noble que le terme de bordel de l'évolution. Mais après tout, quand c'est vraiment le bazar, c'est le bazar. Et c'est vrai que l'évolution, c'est le bazar. Il y a par exemple l'évolution des nerfs et des neurones. Vous savez que les neurones sont d'abord des cellules gigantesques, puisque dans notre cerveau, un neurone peut avoir un axone qui fait plusieurs centimètres, voire dizaines de centimètres de long. Mais quand on parle des neurones moteurs ou des neurones sensoriels, c'est encore pire. Et il y a des neurones qui peuvent faire un mètre de long pour aller atteindre le doigt de pied. Et alors imaginez les neurones de la girafe. Et alors, moi, je ne suis pas du tout spécialiste de l'évolution, mais il semble que les neurones sensoriels de la girafe, certains d'entre eux, doivent descendre à la base du cou pour remonter ensuite. Enfin, il y a un côté très incohérent, quelque part, de la connectivité qui n'est pas toujours directe. Voyez. Donc, c'est vrai que l'évolution... À la fois, on peut dire qu'elle optimise, mais il y a un algorithme évolutif qui cherche à, quand même, si on peut dire, de façon aveugle, mais qui trouve des solutions à des problèmes évolutifs. Mais en même temps, c'est une recherche qui se fait largement au hasard, qui n'est pas guidée et qui donc trouve des solutions parfois vraiment bricolées.
Bricolage bordélique étrange, c'est le moins qu'on puisse dire, Léo Grasset. J'imagine que vous voulez réagir à ce que vient de dire le professeur Stanislas Dehaene, d'autant qu'il cite le cas du cou de la girafe, qui, si je ne m'abuse, était le titre de votre tout premier ouvrage.
Oui, ça me poursuit. Mais ouais, alors je suis évidemment complètement d'accord. Hein, c'est l'évolution, c'est la récupération permanente de ce que les générations précédentes avaient produit pour essayer de résoudre les problèmes de maintenant, quoi, entre guillemets. Je pense que voilà, comme il disait, les traits qui montrent le mieux ça, c'est tout ce qui est les atavismes. Donc en fait, les traits qui ne servent plus à rien aujourd'hui, mais qu'on possède encore, par exemple le coccyx, où il y a des muscles à l'intérieur de notre avant-bras qui sont en train de disparaître chez une bonne partie de la population.
Le coccyx, c'était pour la queue.
C'est la base de la queue, ouais, des primates. Qu'on a perdu. Alors, je prends un autre exemple qui est un peu marrant, mais c'est la plupart des mammifères ont des baculums, donc des os dans le pénis. On va dire que je suis vraiment...
bien compris à quel point c'était intéressant et entre guillemets important, hein, le sexe. Pour mais continue.
Mais en fait, c'est que c'est dans le livre, donc bah, hop, on va dire que c'est justifié. Mais en fait, le truc qui est intéressant, c'est de voir que ce baculum a disparu chez la plupart des primates.
Un os dans le pénis.
Ouais, tout à fait. Ça aide à maintenir la rigidité, en particulier chez... Par exemple, chez les morses, ça a atteint des dimensions incroyables. Mmh. Il y avait un morse qui a disparu il y a pas mal de millions d'années, mais lui, il avait un baculum de quelques mètres de long. Enfin, c'est quelque chose de bien lourd. Et donc, en fait, chez nos ancêtres, ça a disparu progressivement. Chez les chimpanzés, c'est réduit à une sorte de pilule osseuse. Et puis chez nous, c'est vraiment inexistant. Mais on retrouve encore, chez certaines personnes, des fois, il y a des ossifications qui se produisent comme ça, un petit peu... par traumatisme, des trucs comme ça. Donc, comme une espèce de rappel de l'histoire évolutive. Ça nous
de toute notre histoire évolutive, c'est ça. Hein, et qui se rejoue aussi pour notre humanité. Alors, vous avez un chapitre qui est assez drôle aussi, puisque c'est quand même ça qui nous occupe beaucoup. On s'est longtemps pensé au-dessus de tous les autres vivants. Votre chapitre, c'est le presque propre de l'homme. Qu'est-ce que ça serait justement le presque propre de l'homme. C'est... Parce que ça n'arrête pas de bouger, de reculer ces frontières qui ne sont pas vraiment des frontières entre les hommes et les animaux. L'évolution, c'est une longue histoire commune du vivant.
Ouais. Oui, c'est-à-dire que si on prenait une machine à voyager dans le temps et qu'on retournait il y a 300 000 ans, par exemple, on aurait sans doute beaucoup de mal à dire, ok, c'est un Homo sapiens ou c'est un Homo, je pense que c'est les ancêtres. Maintenant, on dit que c'est les Heidelbergensis, un truc comme
oui,
ça.
Oui.
Et donc, je pense qu'on saurait pas exactement définir la frontière parce que évidemment, les espèces, ce sont des boîtes mentales. Hein, c'est juste on décide.
C'est des classifications voilà, qu'on exactement. Fait nous.
Donc, on a décidé, voilà, c'est un sapiens. Mais en soi. Personne ne s'est réveillé un matin en disant enfin je suis sapiens, c'est incroyable, c'est génial à moi la vie. Non c'est donc c'est oui le propre de l'homme ben voilà on peut décider aujourd'hui le propre de l'homme c'est je sais pas c'est par exemple d'avoir des boules graisseuses à la place des seins, c'est vrai que c'est un truc assez unique. On a les fesses, par exemple, c'est très rare les fesses en tant que muscle, voilà. Mm-hmm. Mais c'est pas par exemple la culture, parce qu'on sait qu'il y a d'autres espèces qui pratiquent la culture. Ils ont des formes de culture, en tout cas.
C'est-à-dire que vous dites le propre de l'homme, ça serait plutôt d'avoir des seins et des fesses
voilà.
plutôt que d'avoir une culture.
Exactement. Hein.
D'accord.
Voilà. C'est, en fait, c'était un
peu là, c'est bien renversant.
Voilà.
C'est ça. Hein.
L'idée du chapitre, c'était de montrer que tous les trucs qu'on imagine qui sont vraiment juste à nous et qui nous élèvent au-dessus de la masse animale, entre guillemets, hein, comme le deuil, par exemple, ou la culture ou l'usage des outils, en fait, tout ça, c'est des choses qui sont carrément pratiqué chez d'autres animaux.
Le deuil chez les éléphants,
le
par exemple,
les
outils chez les corbeaux, chez les grands
primates,
singes.
Voilà. Mmh. Ouais. Même, il y a tout un tas d'exemples.
Même chez les poulpes.
Ouais, voilà, tout à fait. Voilà, les loutres aussi utilisent des outils. Et donc, bah, ce qui nous vraiment nous sépare du reste, entre guillemets, si on veut vraiment vraiment trouver quelque chose qui nous sépare du reste, eh ben, ce serait, oui, voilà, ce serait le fait d'avoir des boules au niveau des seins. On ne sait pas exactement pourquoi on a des seins d'ailleurs. Il y a beaucoup d'hypothèses évolutives. Ce fessier qui est vraiment proéminent, quoi, qui est vachement utile pour la course, et que si on regarde les fesses, par exemple, d'un chimpanzé, elles sont toutes plates. Donc voilà, il y a des trucs comme ça, mais c'est pas vraiment dans les trucs vraiment abstraits, magiques. Non, pas du tout.
C'est finalement qu'on est un animal, hein, c'est le cas de le dire, mais très étrange, mais pas toujours pour les raisons qu'on imagine.
Exactement.
C'est ça que vous nous démontrez.
Ça,
hein.
C'est ça, tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on est quand même une espèce étrange. Il n'y a pas de débat là-dessus.
Il n'y en a pas beaucoup qui écrivent des livres sur le grand bordel de l'évolution d'autres espèces ou qui fassent des chaînes YouTube qui s'intitulent d'ortibiologie.
Ouais,
quand même.
Ouais, ça, c'est ça, voilà. Ok, d'accord. Là, on a effectivement un niveau technologique qui est très avancé, mais par exemple, j'en parle justement dans le livre, c'est que est-ce que vraiment on est si fascinant par rapport à peut-être les rats taupe-nus qui sont des espèces eusociales, donc vraiment c'est une société d'une parfaite cohésion où la plupart des individus sacrifient leur droit à la reproduction juste pour aider leurs frères à se reproduire, qui vivent dans des galeries saturées en CO2, donc en fait ils ont une résistance incroyable à l'anaérobie, enfin ils résistent, ils peuvent vivre sans oxygène pendant quelques minutes, c'est incroyable. Ils ont une résistance à la douleur. C'est incroyable. Leur vie est tellement exotique par rapport à la nôtre que, ok, c'est vrai qu'on a des iPhones, on fait des émissions de radio et tout ça, mais leur vie aussi est incroyable, en fait. Si
la vie des rats taupe-nus, ouais. Bon, ils sont pas très jolis. Selon nos goûts, ils sont pas très beaux à regarder.
Mais selon les nôtres, enfin, selon les leurs, peut-être que
selon
nous,
les leurs, bah, c'est possible. Et puis en plus, on est en train de les étudier parce qu'ils ont des pistes de solutions, justement, de longévité contre le cancer, enfin, qui sont capables effectivement de survivre à tout.
Ouais.
Donc ça force le respect évolutif, en tout cas.
Et puis surtout, réussir à créer une société où il y a pas de conflit, c'est peut-être quelque chose où nous on pourrait justement s'inspirer un peu, quoi.
C'est pas faux. Autour de la question pourquoi l'évolution est renversante et pas toujours dans le sens que l'on croit et jusqu'où nous entraînera le vivant. Alors il n'y a pas que nous, chers amis auditeurs et internautes fans de dirty biologie et notre invité qui soyons stupéfaits par la vie, la mort, l'amour, le sexe et l'évolution. Je vous propose d'écouter un éminent biologiste, Hervé Le Guyader, professeur de biologie évolutive à l'université Pierre et Marie Curie, qui vient de publier Ma galerie de l'évolution, le vivant de A à Z aux éditions Le Pommier. Hervé Le Guyader est interrogé par notre reporter Marjorie Bertin qui lui a demandé ce qu'il avait le plus renversé, stupéfié, étonné dans les différents chapitres de sa propre galerie de l'évolution. On l'écoute.
J'aime beaucoup par exemple celui sur le zèbre où enfin on a l'explication de pourquoi le zèbre est zébré pour lutter contre les parasites qui peuvent dire se poser, ça fait un effet d'optique assez étonnant. Et d'autre part, il y a un autre article que j'aime beaucoup aussi, c'est celui sur la bactérie Escherichia coli. C'est la bactérie qui a permis de mettre en place toute la biologie moléculaire, juste avant la Deuxième Guerre mondiale. Et ce sont des expériences qui permettent de montrer que toutes les mutations, dans la plupart des cas, sont neutres, c'est-à-dire ne donnent pas prise à la sélection, et qu'il y a très très peu de mutations qui donnent prise à la sélection. Donc j'ai pris ces deux exemples-là pour vous montrer quelque chose où vous avez quelque chose de sélectionné et autrement quelque chose de neutre. Autrement, il y a une quantité de choses que l'on peut dire maintenant par rapport au résultat de la biologie moléculaire. Par exemple, maintenant, on connaît bien l'origine du blé, on connaît bien l'origine du maïs, on connaît bien l'origine de la rose, avec tous les cas de sélection, d'hybridation, etc., qui se sont passés. Donc en fait, la chose qui est intéressante, c'est qu'on réussit à mettre en relation des éléments clés qui se passent dans le génome et des choses que l'on décrit au point de vue écologique ou zoologique, alors qu'avant, les deux disciplines étaient cloisonnées. Par exemple, c'est de cette manière-là qu'on comprend l'origine des oiseaux chanteurs. Les oiseaux chanteurs qui viennent d'Australie ont des originalités du génome qui sont étonnantes, et c'est le fait d'avoir ces originalités avec cette dynamique du génome étonnante, et d'autre part une situation assez folle, c'est-à-dire au nord de l'Australie, dans un endroit où il y a plein de petites îles, de petites cryptes, qu'ils ont pu faire de nombreuses espèces, et à partir de là, ont réussi à coloniser le globe entier. Donc, vous voyez, actuellement, le point clé au point de vue de la biologie moderne, c'est que le lien qui est fait entre ce que l'on appelait autrefois la génétique, que j'appelle maintenant la biologie du génome, la génomique, et tout ce que les zoologistes, botanistes, écologues décrivent, eh bien, sont en train de le faire. Et ça, c'est quelque chose qui est le résultat, disons, de ces 20 dernières années de travaux.
Hervé Le Guyader, le professeur Hervé Le Guyader, au micro de Marjorie Bertin, sur ce grand bordel de l'évolution, Léo Grasset, pour reprendre le titre de votre ouvrage, qui se lie aussi et d'abord au niveau génomique, au niveau génétique.
Mm-hmm. Ouais, en fait, c'est ça qui est vraiment intéressant. Alors, en gros, par exemple, si on prend l'exemple de la Covid, zut, faut encore en parler, mais c'est très intéressant de voir à quel point on réussit à mieux comprendre la pandémie actuelle grâce à toutes les expertises qui viennent d'horizons très très différents. On peut aborder cette pandémie via l'horizon évidemment génétique. On regarde comment le virus mute à l'intérieur d'une personne qui est immunodéprimée, par exemple. Mais on peut aussi regarder, en fait, le point de vue écologique. Comment on peut avoir des événements de... Alors, je ne sais pas comment on dit ça en français, je suis désolé, je vais le dire en anglais, c'est le spillover. En fait, c'est comment est-ce que ça passe du compartiment
comment
animal...
Comment ça disperse, en fait,
exactement, et comment ça déborde.
Ça déborde au-delà des frontières de chaque espèce.
Voilà, exactement. Comment, par exemple, là, on sait que c'est les coronavirus...
Ça passe la barrière des espèces.
Voilà, tout à fait. C'est un grand saut, quoi, qui passe des chauves-souris, par exemple, pour les coronavirus, chez les humains, par quel truc. Et donc ça, il faut une analyse écologique pour dire, ils habitent ici, ils habitent là, ils se rencontrent là, à ces timings-là de la journée. Et ça, je trouve ça très chouette, en fait, parce que ça, on peut retracer des histoires comme ça et avoir toutes les données. On peut comprendre ce qui s'est passé. Bah, j'en parle dans le livre, c'est sur la myxomatose, donc la maladie qui a presque éradiqué les lapins d'Australie, mais qui n'a pas réussi. Et comment les lapins ont réussi à devenir résistants à ce virus? Et bien là, maintenant, aujourd'hui, on a les preuves génétiques. On regarde dans le génome des lapins actuels, on regarde les traces de résistance à la myxomatose. Et on peut dire, c'est pour ça que là, telle année, ils ont fait un rebond démographique. Ils se sont bien reproduits puisqu'ils étaient tout à coup beaucoup plus résistants. Donc c'est très chouette aujourd'hui puisqu'on a tellement d'outils pour raconter des histoires que, effectivement, il y a 20 ans ou 40 ans, on ne pouvait pas, quoi.
Ça permet de mieux comprendre, justement. Ça permet de prendre en compte tous les paramètres, même si on ne le fait pas toujours. C'est-à-dire les paramètres écologiques, environnementaux, sanitaire, au niveau moléculaire, au niveau macro, micro, c'est vraiment un moment où on peut effectivement rassembler les choses et relire toute l'histoire. Alors, l'histoire de l'humanité, l'histoire des autres animaux. J'ai envie de m'arrêter sur quelque chose qui m'a fait sourire et rire et renverser un peu. C'est sur l'intérêt d'étudier le cérumen. Le cérumen, c'est les petits bouchons d'oreilles, c'est le liquide, la cire qu'on a dans les oreilles. Qu'est-ce que ça nous dit sur les origines de l'humanité?
Alors, le cérumen, c'est un exemple que j'aime bien. Je pense que c'est un exemple qui était très utilisé dans les cours d'anthropologie génétique pour expliquer comment, nous aussi, on est des animaux et on peut faire de la génétique sur nous. Et en fait, le cérumen, il se trouve que il y a deux formats différents, on va dire, dans l'humanité. Soit il est humide, donc ça, c'est les Européens. Et d'ailleurs, en Afrique aussi, je pense... Ça doit s'arrêter là. Et le cérumen plutôt sec, qui se présente sous forme de paillettes plutôt grises, translucides, qui est plutôt présent en Asie de l'Est, quoi. Et donc, ces deux formats-là ne diffèrent que d'une seule petite mutation dans l'ADN à un seul nucléotide. Donc, c'est vraiment la plus petite mutation possible sur l'ADN. Et donc, un nucléotide qui est remplacé par un autre. Et donc, la question, c'est est-ce qu'on peut retrouver l'origine de cette mutation, retrouver qui est la première personne qui est née avec la première population qui a eu cette mutation-là et comment ça s'est passé. Et donc, en fait, on arrive à le faire et puis on arrive à très bien montrer que c'est l'ancêtre commun de tous les actuels asiatiques de l'Est qui a posé ce truc-là. On ne sait pas exactement pourquoi. On sait que c'est corrélé à d'autres traits. Donc, il n'y a pas juste le cérumen, il y a aussi l'odeur corporelle, la transpiration, etc. Et apparemment, ça a conféré une sorte d'avantage évolutif, puisque de toute évidence, ça s'est répandu dans toute la population. Maintenant, c'est
en Asie du Sud-Est.
Voilà, de l'Asie du Sud-Est. Donc, maintenant, c'est un allèle qui est fixé, donc tout le monde l'a. Moi, je trouve ça fascinant, parce que c'est un truc qui est... ça a l'air de rien, quoi, mais en fait, ça raconte une histoire. Ça raconte une histoire sur les migrations hors d'Afrique de l'humanité, comment les gens sont sortis d'Afrique, en plusieurs vagues en plus, mais il y a 60 000 ans, il y a eu cette vague incroyable qui a donné lieu à tous les humains hors d'Afrique actuels. Et ils sont, à un moment, je sais pas ce qui s'est passé, ils ont tiré à pile ou face.
Il y en a qui sont partis en Asie et qui ont changé leur cérumen,
exactement.
Et d'autres non.
Et d'autres qui, eux, sont restés en Europe, qui ont passé du temps dans les plaines gelées. Mais c'est fou de se dire qu'on pourrait raconter cette même histoire avec à peu près n'importe quel trait, en fait. On peut raconter ça peut-être avec les ailes responsables des lobes d'oreilles ou, je sais pas, la forme du nez, le pli épicantique sur l'œil.
C'est quoi ça?
C'est ce qui fait que les traits sont les yeux peuvent être bridés, ils sont un peu voilà. Et ça, on sait qu'il y a une base génétique évidemment, parce qu'on peut le transmettre aux enfants, etc. Et pareil, on peut raconter l'histoire de ce trait-là et raconter quelque chose sur les humains.
Voilà, toute la génétique des populations, toute l'histoire des mouvements de populations, tous partis d'Afrique, des fois même retournés en Afrique, mais dans quel sens et comment ils ont été. Alors, vous avez une jolie formule, elle est renversante, un peu secouante d'ailleurs. Nous sommes des sacs à gènes dans un flipper géant. Nous, tous les vivants, on est des sacs à gènes dans un flipper géant. Mais c'est exactement la métaphore qu'il faut, le flipper géant.
C'est ça, on est sur une planète qui bouge beaucoup. Il se passe plein de trucs tout le temps. Il y a des glaciations, il y a des bombardements météoritiques, il y a des volcans qui rentrent en éruption. Et donc, en fait, on est dans un environnement qui est très changeant. Et donc, forcément, la sélection change de sens. Donc, c'est ce flipper-là géant qui fait que les gènes vont être plus ou moins sélectionnés d'une génération à l'autre. Alors ça, il faut quand même préciser que c'est quand même une vision très... on appelle ça la théorie synthétique de l'évolution. C'est très néo-darwinien, donc c'est... un truc très centré sur les gènes. Alors bien sûr, il y a d'autres paramètres.
Ça,
Les organismes aussi sont à prendre en compte. Enfin, il y a d'autres niveaux de sélection.
C'est ça, la culture, l'environnement. Enfin, il y a plein de niveaux à prendre en compte là-dedans.
On est dans une lasagne géante de complexité. C'est ça qui
dans une lasagne géante de complexité. Formidable. Moi, je comprends quand on donne des images pareilles.
Des lasagnes dans un flipper géant, ça donne...
C'est pas mal. Autour de la question pourquoi l'évolution est renversante, on est dans un flipper géant et on est des lasagnes géantes aussi. On continue de se laisser bouleversé par le vivant, la vie, la mort, le sexe et l'évolution en votre compagnie, cher Léo Grasset. Avant d'en venir au rôle essentiel des grands-mères, des grands-mères, dans notre évolution humaine, on s'arrête en musique sur l'évolution avec ce morceau signé Cat Power, Evolution sur RFI.
Leaving. Better call.
Power Evolution sur RFI, deux circonstances autour de la question pourquoi l'évolution est renversante. Nous sommes en compagnie du passeur de science de Dirty Biology, sa chaîne internet a plus d'un million d'abonnés. Léo Grasset est en direct avec nous pour la sortie de son dernier ouvrage, Le Grand Bordel de l'Évolution, aux éditions Flammarion. Et dans ce Grand Bordel de l'Évolution, vous nous faites passer, cher Léo Grasset, quelques-uns de vos mindfuck préférés. Pour rester poli, on traduira mind par cerveau et fuck par retournement du cerveau, par ce qui vous stupéfie le plus dans les dernières recherches et découvertes sur l'évolution humaine, cette fois-ci, c'est le rôle des grands-mères. Pourquoi et comment les grands-mères ont construit notre humanité? Avant de vous laisser nous expliquer, je propose d'écouter ce qu'en dit le paléoanthropologue Jean-Jacques Hublin, professeur au Collège de France, directeur du département Évolution de l'Homme de l'Institut Max Planck d'Anthropologie Évolutionniste à Leipzig, sur le rôle des grands-mères, montage extrait du documentaire Lady Sapiens.
Ce qui est très particulier chez l'homme, c'est que alors que la croissance est très très longue, eh bien l'âge auquel les petits sont sevrés, paradoxalement, a tendance à devenir de plus en plus précoce. Et ça, c'est lié à une problématique tout à fait simple, c'est que une fois que les enfants sont capables de manger de la nourriture solide, eh bien, les mères peuvent partager avec d'autres adultes le fardeau énergétique que représente le développement de leur progéniture. Et c'est ce qui fait de nous ce qu'on appelle des reproducteurs coopératifs. Et ce comportement-là a une influence extraordinaire sur l'organisation des groupes humains.
Des grossesses espacées pour ne s'occuper que d'un enfant à la fois. Dont elle partageait la charge, Lady Sapiens est loin de l'image de la mère accaparée par sa nombreuse progéniture. Et parmi les aides que reçoit Lady Sapiens, celle qui vient des grands-mères tient une place tout à fait à part. Ces femmes âgées garantissent une quantité d'aliments très importante.
Ces femmes plus âgées soutiennent ainsi la fécondité des femmes plus jeunes. Ces dernières peuvent ainsi avoir leur prochain bébé plus tôt sans que l'enfant sevré ne meure, parce que justement, il est nourri par ses grands-mères.
En plus de participer à l'alimentation des jeunes enfants, elles transmettent aussi leur savoir.
Les sociétés humaines sont des sociétés de partage, de redistribution, mais sont aussi des sociétés d'apprentissage, d'innovation et de transmission de ces innovations. Et cette transmission, évidemment, elle demande du temps. Et c'est aussi un facteur qui pèse en termes de sélection naturelle pour, dans le fond, pousser les êtres humains vers, par exemple, une longévité de plus en plus grande. L'espèce humaine est une des seules, il y en a quelques autres, mais il y en a très peu, mais c'est une espèce de mammifère dans lequel des femelles ménopausées ont encore, j'allais dire, une espérance de vie assez grande. Pourquoi ? Parce qu'elles sont un bénéfice pour le groupe et pour leur descendance.
Du rôle des grands-mères et des femmes ménopausées dans la tribu humaine. Je sais que ça vous intéresse beaucoup, ça, Léo Grasset. J'ai envie de donner le titre, parce qu'il est très drôle, de votre chapitre, des mamies gâteaux depuis le paléo. C'est ça, hein?
Oui. En fait, c'est vrai que c'est très surprenant pour un biologiste évolutif de voir qu'il peut y avoir un individu qui arrête de se reproduire et qui survit pendant peut-être des fois la moitié de sa vie. En fait. Mm-hmm. Et ça, c'est très contre-intuitif, c'est très rare aussi hein, dans le monde vivant, tout simplement parce qu'effectivement, comme on le disait tout à l'heure, une fois qu'on s'est reproduit, quel intérêt de garder le sac de gènes, quoi. Et au cours des dernières années, il y a quand même cette réalisation que un individu, il peut aussi augmenter la fitness de ses gènes, augmenter sa valeur reproductif, son score dans l'évolution, entre guillemets, non pas en se reproduisant lui, mais en aidant ses proches à se reproduire. Et donc ça, c'est typiquement, moi, par exemple, si j'aide mon frère à avoir des enfants, voilà, ben je m'aide à avoir, je sais pas, avec mon frère, ça, un quart, voilà. À chaque fois qu'il a un enfant de plus, j'ai un quart d'enfant de plus, quoi, on va dire.
Oui, c'est ça, c'est un bénéfice collectif, indirect, finalement, exactement. Indirect et collectif, c'est voilà. Ça. Et
donc une grand-mère, à chaque fois que sa fille fait des enfants en plus, ben elle a un peu d'enfants en plus. Donc si elle aide sa fille à avoir beaucoup, beaucoup d'enfants, ben elle aura fait beaucoup, beaucoup d'enfants, entre guillemets, quoi, pas indirectement. Donc du point de vue de l'évolution, du point de vue du score des gènes, ça colle complètement. Et c'est vrai qu'on est une espèce où on a besoin d'être un village pour élever un enfant, mais on a surtout besoin d'une grand-mère, quoi.
Au fond, on a surtout besoin d'une grand-mère. Et ça, c'est assez joli parce que... alors, vous terminez ce grand bordel de l'évolution, cet ouvrage, avec un très joli dessin d'Alice Mazel, illustratrice. C'est une Raymonta, il me semble, qui est devant un miroir.
Ah oui.
Et qui dit... le titre de cette illustration, c'est émerveillez-vous de la capacité de vous reconnaître dans un miroir, que c'est vous, que c'est moi, enfin voilà, que c'est toi. C'est finalement, on en revient non pas au presque propre de l'homme, mais à notre émerveillement obligatoire, j'ai envie de dire, et au fait qu'il faut se soutenir les uns les autres pour avancer. Enfin, c'est quand même ça la morale, si j'ose dire, ouais, de l'évolution.
Ouais. En fait, c'est ça qui est chouette, je trouve, avec l'évolution, la biologie évolutive, c'est qu'elle nous... Elle nous permet d'avoir des nouveaux regards sur plein de choses qu'on considérait comme évidentes ou qu'on ne se rendait pas compte que c'était chouette. Typiquement, le fait de se voir dans un miroir et de se dire « Tiens, mon reflet, c'est moi », ça, c'est quelque chose d'assez avancé, en fait, cognitivement. Et c'est très intéressant. Et le fait que ma grand-mère existe et qu'elle ait donné tous ses petits-enfants, c'est quelque chose de très intéressant aussi. Ça raconte quelque chose sur mon espèce. Donc ça, c'est chouette.
Je propose de dédier donc cette émission à nos grand-mères. Mmh. Et puis, il y a une femme extraordinaire qui n'est pas du tout grand-mère, qui est exobiologiste. Elle s'appelle Nathalie Cabrol. Elle est directrice du centre Carl Sagan de l'Institut SETI, qui cherche aux États-Unis d'autres formes de vie ailleurs, dans l'espace, mais aussi dans les formes les plus extrêmes de vie sur Terre. Et elle reconnaît, puisqu'on est dans la question de l'évolution, dans la question de la définition de la vie, qui est toujours pas très claire, elle reconnaît comme vous qu'au fond, on sait pas très bien ce que c'est la vie, on sait peut-être même pas très bien ce que c'est que l'intelligence. On la laisse conclure, on écoute Nathalie Cabrol.
Pour moi, une bactérie qui a survécu 4 milliards d'années en s'adaptant est aussi intelligente que notre espèce. Les choses les plus étonnantes, tout simplement, c'est la résilience de la vie, sa capacité à s'adapter, quoi qu'on lui lance. Quoi qu'elles subissent, on a parcouru l'évolution géologique avec des quantités d'extinctions, quelquefois des extinctions terribles à plus de 90%, 95%. Et pourtant, la vie est toujours là aujourd'hui, d'une diversité absolument incomparable.
Merci Léo Grasset d'être venu en direct nous prouver à quel point la vie est merveilleuse et d'une diversité incroyable.
Merci.
Je rappelle, alors évidemment qu'on peut vous retrouver sur votre chaîne YouTube Dirty Biologie. Vous avez même sorti une vidéo là tout de suite, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais j'espère qu'elle marche. Hein. Je renvoie nos amis internautes là-dessus et bien sûr sur votre ouvrage extra, Le Grand Bordel de l'évolution, illustré par Alice Mazel aux éditions Flammarion, dont nous avons, je vous le rappelle, chers amis auditeurs, un exemplaire à vous offrir si vous nous le demandez par mail ou sur notre page Facebook. Merci à Hugo Violas pour la réalisation de cette émission, à Tania Tikou en coulisses de l'autre côté de la vitre. Caroline Achowski au micro pour vous servir. Merci de votre curiosité. Surtout gardez l'esprit libre et ouvert à tous les possibles. Et on se retrouve demain entre science et science-fiction pour parler d'espace autour de la question jusqu'où l'humain ira ou pas dans l'espace.
Ce mardi,